Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé, journaliste au service politique de France Inter, il publie Le Premier Secrétaire de la République.
Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Votre livre commence par une exergue où vous citez un conseiller de l'Élysée qui vous menace assez explicitement. Il faut que vous arrêtiez votre livre, on sait ce que vous faites, si vous le sortez, le président ne vous adressera plus la parole et surtout n'oubliez pas où vous travaillez.
Alors je travaille toujours ici. Hein.
Vous n'avez pas été viré depuis, donc non, on est rassuré. En revanche, est-ce que la prédiction s'est vérifiée? François Hollande ne vous parle plus depuis que vous avez sorti ce livre?
J'ai l'impression qu'il est fâché. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière, puisqu'il a lu le livre, j'ai cru comprendre avant tout le monde. Et il n'a pas trop apprécié l'analyse que je fais de son quinquennat.
Il faut dire que le livre n'est pas tendre avec le président, de l'affaire Leonarda à la loi travail en passant par la déchéance de nationalité. C'est une autopsie clinique du quinquennat que vous jugez ratée. Tout est dans le titre, au fond, ce titre-là, le premier secrétaire de la République. Pour vous, François Hollande n'a jamais réussi à être autre chose que cela?
Le premier secrétaire de la République, pour moi, c'est la synthèse la plus aboutie mais la moins réussie de François Hollande. François Hollande qui s'est spécialisé dans l'art de la synthèse. On a l'impression qu'il est resté chef de parti. Il a toujours les mêmes réflexes, il essaye toujours les petites combines, les petits arrangements avec sa majorité pour essayer arriver à ses fins.
Et pourtant, il y a quand même les attentats, la gestion des attentats où tout le monde a reconnu, Cyril Gradiani, que François Hollande était rentré dans la fonction.
Oui, mais quand on creuse, parce que le livre est une enquête, c'est vraiment une enquête journalistique, et quand on creuse, qu'on va à la rencontre d'autres acteurs du quinquennat, il vous explique que à ce moment-là, François Hollande, c'est ce que j'explique dans le livre, François Hollande dit à Julien Drey, les attentats, c'est la seule fois où j'ai eu la paix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la majorité derrière qui le poussait, qui pouvait faire un 49-3, enfin qui pouvait lui faire faire un 49-3, qui pouvait le pousser dans ses derniers retranchements. Il n'y avait pas des guerres partisanes, des guerres de courant. Et je trouve que cette phrase est plutôt terrifiante, cynique et assez terrifiante.
Le 49-3, vous parlez de la loi travail, dont on a beaucoup parlé tout le printemps dernier. Vous dites que Ségolène Royal va le voir à un moment, lui dit « Vous ne pouvez pas faire passer ça par le 49-3 », qu'est-ce qu'il lui répond ?
Ça va passer comme une lettre à la poste, parce qu'il pense que le pays est fatigué et que la loi travail va passer sans aucun problème. Et d'ailleurs, Ségolène Royal, ils ont essayé de l'utiliser peu après pour qu'elle utilise son aura auprès des classes populaires notamment, mais comme elle les avait prévenus au préalable, elle n'a pas voulu être utilisée.
À l'origine, Cyril Gradiani, selon vous, à l'origine, le péché original de ce quinquennat, c'est la première année. Vous dites tous les socialistes, il n'y a pas un socialiste qui ne tape pas sur la première année de François Hollande, marqué par l'amateurisme et l'impréparation.
Et pourtant, ça commence par le tweet.
Le tweet.
Le tweet de Valérie Trierweiler.
Oui.
D'entrée.
Ouais. Ouais.
Vous, François Hollande, passe de la sphère privée à la sphère publique et d'entrée, les difficultés s'amoncellent. Parce qu'il y a un problème, il y a une vision du président de la République qui n'est pas celle qu'il aurait bien voulu montrer.
Ouais. Une première année qui s'est clôturée par la désastreuse affaire Leonarda. Et on apprend dans votre livre une chose qu'on ne savait pas, c'est que François Hollande a évité le pire.
Il a échappé à la catastrophe. Oui, parce que François Hollande, tout le monde se souvient qu'il fait sa déclaration à l'Élysée. Il annonce que Leonarda peut revenir, mais seul, sans sa famille. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que après, Leonarda fait ce qu'on appelle un duplex. Et elle est,
un duplex sur BFM.
Un duplex sur BFM TV. Elle est positionnée. Et juste avant que l'image n'arrive, que l'antenne n'arrive, sa mère passe devant la caméra et dit Hollande touche ma chatte. Donc vous imaginez dans quelle situation. Ce que j'ai voulu raconter, c'est le fait qu'il fasse cette déclaration le conduit à le mettre dans une situation totalement périlleuse.
Ouais, heureusement, ce n'est pas passé à l'antenne, mais vous le racontez dans le livre. Qui est Naevius Sutorius Macro?
C'est un préfet du prétoire romain, appelé également le préfet Macron.
Qui aurait tué Tibère,
qui aurait tué l'empereur Tibère, dont le surnom était le mal-aimé. Voilà. Toute ressemblance avec des faits ayant eu lieu en 2016 est fortuite, je dirais.
Jusqu'au bout, vous pensez vraiment qu'il n'y croyait pas, François Hollande, qu'il ne pensait pas que Macron allait partir, qu'il ne pensait pas qu'il allait le lâcher, qu'il allait le trahir?
Je crois que dans l'esprit de François Hollande, on ne peut pas le trahir. En plus, on ne peut pas le trahir quand on est son fils prodigue politique. François Hollande considère qu'il a tout fait pour Emmanuel Macron. Et ce que je disais par rapport à Ségolène Royal, qui n'a pas voulu être utilisée, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron la semaine dernière. Parce qu'Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il allait être utilisé en vue de la présidentielle. Sa popularité, le côté moderne, jeune... il s'est certainement dit, il me garde la tête sous l'eau, mais moi je ne veux pas qu'on me garde la tête sous l'eau. C'est un petit peu le jeu du téléprix qu'il croyait prendre.
Vous citez une phrase que vous aurez dit François Hollande, Emmanuel Macron, une fois sorti du gouvernement, ne sera plus rien.
On va voir ça maintenant. On va voir si c'est une bulle ou pas.
Et puis alors vous racontez une scène qui se serait passée il y a quelques mois dans un restaurant parisien entre Valérie Trierweiler et Brigitte Macron.
Alors je raconte, oui, c'est des propos rapportés.
Ça a été démenti, je précise, par Mme Trierweiler qui a démenti en disant que Graziani est un journaliste sérieux, mais il dit n'importe quoi sur ce truc.
Via un tweet. Moi, je maintiens tout ce que j'ai écrit. C'est une rencontre entre Brigitte Macron et Valérie Trierweiler dans un restaurant où les deux ont parlé d'Emmanuel Macron et d'une possible candidature d'Emmanuel Macron.
Et là, Valérie Trierweiler aurait dit à Brigitte Macron, il faut qu'il y aille.
Oui.
Elle dément. Vous parlez de cette rivalité très vite entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Manuel Valls qui appelle Macron, comment ?
Microbe.
Ouais.
Oui, ça c'est... Vous lui demanderez ?
Non.
Pourquoi il l'appelle comme
oui.
ça ? Oui, il l'appelle microbe. L'antagonisme entre Emmanuel Macron et Manuel Valls, il n'allait pas de soi au début parce qu'il faut savoir que c'est Manuel Valls qui avait fait le forcing pour nommer Emmanuel Macron quelques mois avant sa nomination à Bercy. Il voulait le nommer secrétaire d'État au budget et les deux s'entendaient très très bien. Même dans les cercles socialistes, on dit qu'ils étaient amis. Sauf que Emmanuel Macron a empiété sur le domaine réservé de Manuel Valls et l'a d'une certaine façon ringardisé. Donc c'est là où, à ce moment-là, les difficultés ont commencé entre les deux hommes.
Il y a beaucoup de citations, beaucoup de révélations dans votre livre. On apprend beaucoup de choses.
C'est une enquête journalistique.
Beaucoup de citations des déçus, des cocus du hollandisme, Cyril Graziani, Arnaud Montebourg, Aquilino Morel, d'autres. Pourquoi vous n'avez pas interviewé plus de proches de François Hollande ? Si vous voulez faire une autopsie de 4 ans, il faut donner la parole à tout le monde et même à la défense, Cyril Graziani.
Je vais vous raconter une anecdote, j'avais pris ce parti-là, évidemment, pour équilibrer, et j'ai rencontré un ami proche du président qui m'avait dit « merci de me voir pour que je dise du bien ». On a passé 45 minutes ensemble, il n'a pas dit une parole bien du président. Et au bout de 45 minutes, il s'est levé, il m'a dit « oh là là, faut que je m'en aille », et je lui dis « mais vous étiez là pour essayer un petit peu de nuancer les propos ». Il m'a dit « bon, on se reverra », et je ne l'ai jamais revu.
Finalement, tous ces livres qui sortent sur les confidences de François Hollande en cette rentrée, on voit bien le mystère de l'homme, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais au fond, il ne se confie pas. Il vous l'a dit d'ailleurs, je me livre peu, je me confie peu, se livrer est une faiblesse. Au fond, le mystère Hollande reste entier. Vous avez enquêté, vous l'avez suivi comme candidat, comme président, vous ne le connaissez toujours pas.
Oui, parce que je considère que parler de confidences de François Hollande, c'est se méprendre véritablement sur l'homme, car François Hollande... même les gens qu'ils connaissent depuis 30 ans ne savent pas réellement ce qu'ils pensent.
Donc vous pensez que tous ces livres de confidence, c'est quoi ? C'est du storytelling ? Que les journalistes sont manipulés ?
À partir du moment où vous faites des confidences à 15 personnes, ça ne s'appelle plus des confidences, ça s'appelle du storytelling.
D'ailleurs, c'est Thomas Hollande qui en parle le mieux. Il dit « Il est insaisissable. Quand on est dans une pièce avec lui, on ne sait jamais par quelle porte il va sortir. » Ça s'appelle « Le premier secrétaire de la République ». C'est chez Fayard. Merci à vous, Cyril Graziani.
Merci à vous.